On m'a invité une seule fois à la conférence des évêques, à Lourdes, qui est déjà patrié. Je suis rentré, j'ai vu ces 90 évêques plus tristes les uns que les autres. J'ai dit, putain, vous avez la lumière de Dieu, théoriquement.
Non, non, une gaieté intérieure, une joie intérieure.
Ah, elle était vraiment intérieure.
Une joie intérieure.
Il pleuvait, c'était novembre, enfin, se flinguer, quoi. Ils m'ont pas réinvité. Bon.
Bon, je vais pas laisser Dominique Volton faire de l'anticléricalisme primaire.
Bah non, mais plus que secondaire seulement.
Secondaire. Voilà, mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous avoir rejoints pour cette rencontre avec Dominique Volton autour de ces entretiens, de ce dialogue inédit avec le pape François. Voilà, donc, alors, Dominique Volton, pour ceux qui ne vous connaissent pas, donc, sociologue, chercheur au CNRS, fondateur d'une revue de communication qui s'appelle Hermès, donc, que vous avez fondée il y a une petite trentaine d'années.
Oui, enfin, ça suffit déjà.
Trentaine d'années, oui, oui, tout à fait. Vous êtes, donc, en dehors de vos études de sociologie et de la communication, vous êtes très engagé sur de nombreux sujets dans la société civile. Vous avez beaucoup écrit, parlé de la télévision, d'Internet, de la francophonie, de l'éthique, mais aussi de la technique, de l'évaluation des choix scientifiques. Enfin, beaucoup de sujets sur lesquels vous avez donc écrit et enseigné, voilà, et rencontré. Alors, la religion dans tout ça, puisque c'est bien de ça qu'il est question ce soir. Alors, sans préjuger de vos choix philosophiques et spirituels que je ne connais pas, j'ai noté quand même, je me suis souvenu que vous aviez, il y a 20 ans, fait un autre livre d'entretien.
Non, non, il y a 30 ans.
1997, est-ce que c'est moi
non,
qui me
hélas.
Trompe
J'aurais préféré, ça 87. Fait 10 ans de moins. Mais c'est 87, Lustiger.
87. Donc 87, donc un livre d'entretien, Le choix de Dieu, donc avec le cardinal archevêque de Paris, Monseigneur Lustiger. Je ne sais pas s'il était encore à l'époque, s'il était déjà à l'époque cardinal.
Il était cardinal. En pleine puissance, il caractère cardinal, de chien.
Voilà. Donc, et vous aviez fait ces entretiens avec Jean-Louis Missika, hein, donc vous étiez en tandem. Cette fois, vous avez fait ces entretiens seul à seul, et pas avec n'importe qui. Vous êtes carrément aller taper à la porte du pape. Alors c'est un peu évidemment la première question qu'on a envie de vous poser, c'est de nous dire les circonstances dans lesquelles Dominique Volton vous avez pu approcher quand même le pape. Non pas que le pape soit inaccessible, loin de là. Vous dites nombreuses reprises à quel point il est au contraire sympathique, accessible et ouvert. Mais enfin malgré tout, pour rentrer dans sa sphère, pénétrer dans la maison Sainte-Marthe, et surtout pénétrer dans son emploi du temps, ça doit pas être quand même tellement simple. Surtout que vous n'y avez pas été avec le dos du ciboire, si j'ose dire, parce que vous avez eu 12 rencontres avec le pape, et pas des rencontres de 5 minutes au coin d'une sur un coin de table, mais des rencontres qui ont dû durer entre 1 heure et 1 heure et demie à chaque fois, ce qui nous donne d'ailleurs ce gros bouquin.
Plutôt
1 heure et demie, 2 heures. Voilà, alors donc ma première question est bien celle-là, donc accéder à François, question Dominique Volton, comment on fait quand on est ni curé, ni évêque, ni peut-être même catholique, je sais pas, et que l'on est...
Je l'ai dit, je suis agnostique.
Voilà, agnostique. Et donc, comment fait-on et en plus français, puisque les Français n'ont pas toujours forcément bonne presse.
Finalement, sous François, je pense que on a une assez bonne presse, quand même. Comme souvent, parce que... je parlais de l'influence des Français, mais on est quand même assez bien représenté au Vatican. Torrent, Monseigneur Torrent, qui s'occupe des relations, dialogue des religions, qui est le chantier le plus chaud, c'est un Français. Le secrétaire d'État, Paroline, parle français. Bechou, le numéro 3, parle français. Ils sont francophones. Non, il y a une assez forte...
Et François, et alors vous dites d'ailleurs dans le livre, oui, que François, qui a priori ne parle pas français, le comprend assez bien et même très bien. Vous dites.
Oui, c'est un vrai coquin. Il m'a dit au début, je parle pas le français. En fait, il l'entend très bien. Donc il entend très bien, il ne le parle pas trop mal. D'ailleurs, il y a pas mal de phrases en français dans le texte qui sont les siennes. Non, il y a une... c'est le même problème. La France est aimée, il n'y a que les Français qui ne s'aiment pas. On est aimé parce que quand même on est plutôt un peuple intellectuel, cultivé, assez débatteur, pas mal voltairien. Non, en tout cas, François, qui est un latino, fils d'immigrés italiens, est très européen. Et finalement, il aime bien l'esprit d'intellectuel français. Oui, ça c'est vrai. Je pense que ce n'est pas le cas sous Benoît et sous Jean-Paul II. Mais bon, comment j'ai fait, je l'ai déjà expliqué, mais c'est vrai. Cet homme fasciné par le fait que c'était le premier pape mondialisation, premier pape jésuite, premier pape latino, et surtout premier pape à être capable en moins de 6 mois d'avoir une aura mondiale aussi forte, sur une capacité de communication politique extrêmement forte, séduisante, laïque.
Et la donc la communication, c'est votre truc, hein, donc c'est votre grille, votre grille
d'analyse. Un homme qui n'a comme pouvoir que les mots et qui fait clac, 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 et ça passe et dans le monde entier, je me dis comment il fait. Donc du coup, je me suis pris au jeu, j'ai commencé à réfléchir pour un dialogue. La bonne idée, c'est que je vais rester centré sur la politique. Puis j'ai fait un plan de livre, qui est le plan de ce livre, et je lui ai envoyé par mail. Je n'avais pas d'appui au Vatican, j'en ai pas davantage d'ailleurs.
Vous dites que vous avez eu l'aide d'un chanoine, du chanoine de Saint-Victor.
Non, j'ai pris après. Voilà. Non, 2 mois après, j'ai reçu un mail en disant le Saint-Père vous attend tel jour, telle heure. Bon, j'ai quand même paniqué. Pas mal quand même. Du coup, pour les traductions, j'ai dit comment je vais faire. Donc, j'ai pris un chanoine que je connaissais qui a servi de traducteur parce qu'il parle italien. Sa première langue, c'est l'italien, puisqu'il était socialisé par les familles d'Argentins, d'Italiens. Et bref, je crois que ce qui a marché, c'est 1, le projet du livre qui l'intéressait, 2, le fait que j'étais un laïc, 3, que j'étais pas italien, 4, que j'étais pas curé, 5, que j'étais pas journaliste, 6, que j'étais intellectuel français. Puis après, la rencontre essentielle, c'est qu'on sait plus.
Mais alors dites-moi, parce qu'il y a tout de même, je pense, plus d'un journaliste, plus d'un chercheur, plus d'un intellectuel qui a dû avoir la même idée que vous.
Oui.
Vous n'avez pas été surpris d'avoir été choisi ?
Ben, si vous voulez, oui, je pense qu'il a fait un pari comme moi j'avais fait le pari. En fait, ce qui a dû se passer, c'est ce facteur inexplicable qui est la rencontre humaine, c'est-à-dire que son intelligence, sa forme d'humour, son rapport au monde a rencontré le mien. C'est le truc le plus inattendu, quoi. Parce qu'en fait, je n'avais pas de contrat avec lui, je ne savais pas combien de temps ça allait durer, je ne savais même pas s'il le voulait réellement. Enfin, on est parti dans une espèce de... Et ça fait partie du génie de cet homme. Il fait une confiance absolue dès lors que les atomes crochus marche. J'ai eu moins de problèmes avec lui qu'avec un président de la République. Alors, c'est quand même autre chose, un pape qu'un président de la République, même élu au suffrage universel. C'est quand même d'abord une autorité spirituelle. Ce que je peux dire aussi, quand même, c'est que j'ai toujours eu peur. Peur, une espèce d'angoisse intellectuelle, me dire qu'est-ce qu'il va penser, comment, etc. Parce que cet homme était extrêmement affable, aimable, etc. Mais enfin, c'est que j'étais à 1m50 à chaque fois du pape. Et c'est pas une fois. Et à chaque fois, c'était 1h30. C'est très long, hein. Une audience pontificale, c'est 20 minutes. Chef d'État compris.
Et donc, vous, c'était des rencontres d'une heure, 1h30.
Oui, et je ne savais pas comment j'en ai moi dépatouillé, puisqu'il m'a dit, je dis, mais ça va durer combien de temps? Je ne vais même pas poser... Il y a des questions qu'on ne pose pas à un pape. C'est pour ça que c'est un exercice très compliqué. Ce n'est pas un dialogue de journaliste, je ne suis pas un juge, je ne suis pas là pour l'inquisition, je ne suis pas là pour lui faire sa tresse d'honneur. Donc, c'est un dialogue très compliqué à construire qui... Je n'ai pu le réussir que parce que j'ai une longue expérience des recherches, je pense, en communication. Que 2, j'avais quand même ces 3 expériences qui m'avaient marqué de dialogue, de livre. J'avais quand même dialogué avec Raymond Aron, quand même, qui était le grand pape de la philosophie de droite, entre guillemets. J'avais sauvé Aron du purgatoire où Sartre l'avait enfoncé.
C'est un de vos premiers livres.
Oui, c'est mon premier entretien. Moi, j'ai écrit beaucoup, beaucoup de livres. J'ai écrit plus de 35 livres, mais j'ai fait que 4 livres d'entretien. Raymond Aron, j'étais content de le sauver du purgatoire. J'étais de gauche, j'étais de droite. Après ça, j'ai fait ce terrible cardinal Lustiger. C'est terrible parce que Lustiger a quand même été le cardinal archevêque de Paris, seul cardinal archevêque juif converti depuis le XVIe siècle. Personnage très intéressant, mais très difficile dans les relations. Un vrai intellectuel laïque. D'ailleurs, le point commun avec lui et François, c'est que ce sont deux laïcs. Moi, j'aurais pas pu faire un livre avec quelqu'un de trop catholique. Parce que quand c'est trop catholique, j'y arrive pas.
Vous êtes en train de me dire que le pape François n'est pas vraiment catholique?
Non, non, il n'est pas catholique dans le comportement. Il est, oui, c'est un peu paradoxal. Non,
qu'est-ce que vous voulez dire exactement?
Qu'on comprenne. Ben, vous l'avez vu, même ce qu'il a dit en Birmanie là et au Bangladesh, il ne parle pas comme un pape. Un pape, ça parle de religion de manière relativement peu compréhensible avec des allégories dans tous les sens. Lui, tout le monde comprend, c'est très clair, c'est très net, c'est très politique.
Jean-Paul II, pour ne parler que de lui, n'était-il pas compréhensible par tous?
Non, il était européen. Et il parlait d'abord aux Européens. Et sa bataille, c'était faire sauter le communisme. Et, bah, il n'a pas gagné à lui tout seul, mais il a gagné quand même. François, c'est le premier pape de la mondialisation. Son job, c'est le monde. C'est l'Église catholique, au sens étymologique du terme. Et il vient d'Amérique latine. Et il a plein de stigmates d'Amérique latine. Je lui dis, à un moment donné, vous avez un optimisme. C'est pas du tout un homme forcément toujours très... Enfin, il a quand même une espèce d'optimisme chevillé au corps. Je lui dis, vous venez de l'Amérique latine. Nous, les Européens, on est tragiques. parce qu'on a deux guerres mondiales. Et Jean-Paul était tragique, Benoît est tragique, et non pas que ce soit pacifique l'Amérique latine, mais les guerres d'Amérique latine depuis 1850, elles n'ont rien à voir avec les guerres de la tragédie de l'Europe.
Enfin, pour parler d'Argentine, puisque vous en dites un mot, il y a cette dictature argentine qui est quand même très fraîche, et qu'il a connue en tant que
oui,
en tant qu'évêque, en tant que prêtre, et qui a été terrible, qui est une expérience terrible pour une société argentine.
Ah mais bien sûr. Mais
voilà. Non, mais c'est pour vous dire que on peut être aussi tragique. En tant que Sud-Américain, on peut avoir le sens du tragique.
Oui, on peut. Mais je suis d'accord. Il y a des dictatures partout en Amérique latine. La dictature argentine est sûrement la pire des quatre qui a eu lieu. Ceci, c'est pas comparable avec la Shoah, avec les guerres mondiales, voilà. Mais je crois que, de toute façon, la dictature l'a fait changer, au sens d'une radicalisation, humaniste, démocratique, etc. Mais il n'y a pas on se rend compte de ça en Europe quand on voyage dans le monde. Il y a des pays qui sont... Il y a peu de parties du monde aussi dynamiques que l'Europe, contrairement à ce que pensent les Européens, aussi capables de construire, avec une espèce d'expérience historique qui est tragique, parce qu'on a quand même... deux guerres mondiales, plus un nombre incalculable de conflits depuis... Bon, c'est peut-être pas la seule explication, mais il est laïque au sens où il est capable de se faire comprendre par les très pauvres.
Alors quand même, vous avez volontairement évacué la théologie dans votre livre, parce que vous vouliez pas parler théologie avec lui, d'abord parce que vous vous sentiez pas capable de le faire.
Parce que je me suis déjà tapé ça avec Lustiger.
Et deux, parce que le pape lui non plus, lui souhaitait parler avec vous de... Oui. Alors, vous appelez ça politique et société, vous avez parlé de beaucoup de choses, et il y avait mille sujets à traiter sans s'embarrasser de rentrer dans la théologie.
Oui, sur la théologie, il dit des choses essentielles, parce qu'il y a deux lectures de livre, il y a un premier niveau qui est très facile, c'est vrai. Et puis pour ceux qui sont un peu spécialistes, il prend position sur plein de sujets de doctrine. Par exemple, à un moment donné, il a dit de manière très naturelle, « Oui, moi, je suis un pasteur, je ne suis pas un professeur », ce qui renvoie à plein des conflits théologiques très violents. Et sous-entendu, « Moi, je ne suis pas Benoît ». Non pas qu'il y ait conflit entre lui et Benoît, ce n'est pas vrai. Mais en gros, lui, c'est d'abord quelqu'un qui va sur le terrain et qui veut le contact physique avec les gens. Et d'ailleurs, on lui reproche ce qu'on reproche aux jésuites, de ne pas être un fou de la liturgie. En gros, les jésuites, c'est quand même ceux qui ont été les premiers dans le monde avec les franciscains. Donc, ce sont des gens qui ont l'habitude du contact avec les autres civilisations. Donc, ils ont un abord extrêmement le plus possible proche de la réalité. Et c'est vrai que quand on regarde l'histoire du monde, les jésuites s'y promènent depuis la fin 16e.
Ils ont les premiers. Saint-François-Xavier, l'Inde, la Chine.
Ricci pour la Chine. Et là, il vient de passer en Colombie. Il était passé en Colombie où moi, je suis passé... complètement par hasard, trois semaines après, il a été en Colombie au mois d'octobre pour fêter le premier anniversaire de l'accord de la cessation de la guerre civile avec les FARC. Et il a rendu hommage à un jésuite qui avait été un des premiers qui, après, ils ont fait... les jésuites en Amérique latine ont fait ce qu'on appelle les missionnaires, c'est-à-dire les relations avec des facteurs d'émancipation avec les peuples indiens, jusqu'à ce que Rome les referme. Il y a une tradition jésuite assez rebelle, quand même, hein. Allez, on a le jésuite comme ça, il y a une tradition qui est... Oui, donc il parle laïque. Il parle évidemment religion. Son discours est que religieux, mais il est extrêmement facile à comprendre.
Pour le communicant que vous êtes, vous avez beaucoup parlé de communication avec lui.
Oui.
Qu'est-ce que c'est la communication quand on est de l'Église Et alors, il y a notamment un passage assez intéressant sur la communication non verbale et sur le sens du toucher. Parce qu'en fait, je crois que vous vous serriez la main avec le pape, mais je crois que ça allait. Ouais, il aime bien. Il a ce côté assez. Il aime bien palper le pape. Il est physique, quoi.
Oui.
Vous l'avez bien senti, ça, non
Moi, je pense que de ce point de vue-là, il réhabilite bien. L'importance du toucher physique, parce que on est quand même des sociétés très à distance, et les papes sont des personnages intouchables, si je puis dire. Et lui, c'est vrai qu'il adore toucher, parler, rigoler, manger, boire. Enfin, il est d'une espèce de présence physique qui ne correspond pas du tout au rang qui est le sien.
Donc, claquer la bise, prendre les enfants dans les bras, prendre les gens. On se souvient aussi de ce lavement des pieds à des détenus. Alors, c'était la première année de son pontificat, je crois. Donc,
et le fait que la première chose qu'il a fait, il a pris son avion pour aller à Lampedusa. Lampedusa, c'est quand même là où arrivaient tous les immigrés. Et il est venu là, première chose. Et le retour dans l'avion, il a dit : qui serais-je pour juger les homosexuels ? Enfin, en un voyage aller-retour, il avait complètement ébranlé. Et il est comme ça, et dans le contact physique aussi, il adore les audiences publiques parce qu'il voit les gens, il peut leur parler, il aime bien l'humour populaire. En fait, il adore le peuple, quoi. C'est-à-dire une identité qui, pour nous en Europe, est très compliquée. Pour lui, ça veut dire quelque chose de profond. Et c'est très latino-américain. C'est pour ça que c'est une expérience du monde complètement différente de la nôtre. Il y a un peuple qui existe.
Alors, oui, vous venez de parler du peuple. Il y a une expression que le pape François emploie, et alors, d'ailleurs, l'Osservatore Romano s'était même trompé. Il dit le peuple, c'est un concept mythique. Alors, l'Osservatore Romano, qui avait transcrit les propos du pape, avait dit non, mais le pape a dû se tromper. Il avait dû penser que c'était mystique. Et il dit non, l'Osservatore Romano s'est trompé. J'ai bien dit le peuple, c'est mythique. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire exactement quand il parle de peuple mythique? Le peuple, c'est un mythe. Vous venez de dire que c'était quelque chose qu'on voulait toucher.
C'est à la fois. Voilà. C'est une référence expérimentale concrète. Il y a des gens... Il part beaucoup des pauvres. Hein. Son action pastorale, c'est quand même revalorisation des pauvres, des exclus. Il est franciscain de ce point de vue-là. Il est peu jésuite. Et il n'aime pas tellement la richesse, l'argent. Il dit l'argent, c'est le fumier du diable. Donc, il dit en gros, les riches et les puissants, vous devez donner. Donc, lui, il est à fond dans l'application de l'évangile. C'est-à-dire... Ce sont les pauvres et les exclus qui sont le sel de la terre, les autres, bon. Et du coup, le peuple représente tout ce qu'il aime. C'est des gens qui sont capables d'avoir des contacts entre eux et dont tout n'est pas séparé par les barrières hiérarchiques. Et ça correspond assez bien à l'expérience du peuple en Amérique latine, où en fait, malgré d'immenses inégalités financières, il y a une collectivité qui existe. Et d'ailleurs, pour ceux qui connaissent l'histoire d'Amérique latine, qui renvoie aussi à ce que fut l'expérience de Perón, qui est une expérience un peu caricaturée en Europe, parce que Perón, c'est très compliqué. C'est du socialisme, c'est de la droite, c'est du peuple, en tout cas. Donc, je pense que...
C'est socialiste, c'est autoritaire, c'est charismatique. Oui. Charismatique aussi.
Charismatique. Mais il n'est pas tellement charismatique. Il l'est dans son comportement, mais par tempérament, il n'est pas tellement charismatique. Jean-Paul II était plus... En même temps, c'est quelqu'un, je pense, qui est très compliqué, qui s'est radicalisé avec le temps, qui n'a pas forcément eu des bonnes relations tout le temps avec les autorités ecclésiastiques, y compris les jésuites, qui a un caractère très trempé, qui n'aime pas les honneurs, l'argent, le pouvoir, ça n'intéresse pas du tout. Là, quand même, il vit à Sainte-Marthe, hein. Il vit dans 50 mètres carrés maximum. Et c'est franchement la pension de Sainte-Marthe.
Sainte-Marthe, il faut situer, c'est une maison d'accueil à l'entrée du Vatican.
Oui, non, dans le Vatican, mais derrière le cœur de Saint-Pierre, qui est un bâtiment tout à fait banal, en fait, ça a été construit pour les cardinaux, quand ils viennent siéger au Sacré Collège. Donc, il y a du marbre partout, mais ce n'est pas d'une beauté exceptionnelle. Il vit là-dedans, il n'a jamais vécu dans l'appartement, il ne veut pas aller à Castel Gandolfo. Enfin, il est extrêmement pauvre, comment dirais-je, pas pauvre, mais simple, voilà. Et il ne lâche pas, il ne lâche pas.
Donc ça fait quand même 3 ans qu'il vit. Ça fait 3 ans qu'il vit à la maison Sainte-Marthe,
oui.
Et que donc les appartements du pape
sont vides.
Sont vides. Oui.
Sont vides. Il y vient pour faire quand il. Ben, il a parlé. Il a parlé l'autre jour. Il y vient pour quand il fait
pour la bénédiction urbi et
urbi. Là, c'est une fenêtre de l'appartement. Mais l'appartement est immense. En fait, il voulait y mettre les familles musulmanes, mais il n'a pas réussi.
Il n'a pas réussi à faire appel. Voilà. Je crois que la curie l'a dissuadé de mettre les familles musulmanes dans les appartements du pape.
Mais enfin, dans les scandales qu'il porte, il a des pantalons trop sombres sur la soutane, il a des chaussures trop noires et qui ne sont pas jolies. Il n'a jamais mis les chaussons brodées du pape, quoi.
Ni les mules.
Oui, il n'a pas mis les mules du pape, jamais.
Mais alors, vous m'avez
Benoît, quand on voit Benoît, il les avait. Non, mais c'est important dans la durée, parce que... Ça veut dire quelque chose, quand même.
Alors, vous ne m'avez pas dit pourquoi le peuple était un mythe.
C'est un mythe parce que, enfin, c'est une référence qui transcende les inégalités, les riches et les pauvres. C'est un mythe au sens où ça n'existe pas dans la réalité, mais c'est aussi une espèce de référence qui permet quand même de rappeler à tout le monde que, quelles que soient ses origines matérielles d'ici, il appartient à cette expérience humaine. Donc, c'est typiquement une phrase à lui qui mélange la théologie, la politique, la sociologie, et une espèce d'aspiration à finalement... En gros, oui, c'est ce que j'ai dit, c'est sa dimension franciscaine. Quand vous discutez avec les ordres religieux, ils n'ont pas le même rapport au monde. Un dominicain n'est pas un jésuite. Si vous prenez les trois ordres, un dominicain plus intellectuel, un jésuite plus politique et un franciscain plus pauvre. Voilà.
Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'il y a chez François un côté franciscain, un côté dominicain et un côté jésuite. Oui. Il a un peu les trois quand même.
Oui, parce qu'il est quand même malin. Je dis qu'il est malin. Par exemple, la bataille gigantesque qu'il mène, il en mène deux. Il ne se fait pas d'illusion. Un, redresser les finances, enfin y voir clair plutôt, et mettre de l'ordre, et améliorer le fonctionnement de la curie, notamment en mettant des femmes. Et là, mais je dis, mais vous allez y arriver? Il dit, si c'est pas moi, c'est mon successeur. Non, une chose fondamentale à dire, c'est un homme qui vit avec 1500 ans d'histoire dans sa tête. Voilà. Donc là, il est sur une expérience de temps et d'espace qui n'est pas le nôtre. Et c'est naturel pour lui. Ça, c'est exceptionnel, parce que ça vous donne une perspective. C'est naturel. Il est très cultivé, il ne le montre pas. Il est très simple.
Là, il vous a beaucoup parlé. Vous avez parlé de son. Il est sud-américain, argentin, tout le monde le sait. Il est aussi piémontais d'origine, puisqu'il est comme européen, italien, par ses
parents. Piémont et Ligurie, donc c'est pas les.
Piémont et Ligurie, donc ses parents sont arrivés en 1928 en Argentine, donc il a quand même cette mémoire européenne qui est assez proche. C'est d'ailleurs un coup de génie d'avoir effectivement élu un sud-américain d'origine européenne pour la transition.
Oui, parce qu'on a l'impression que le Sacré Collège a gardé un petit lien avec l'Europe quand même.
C'est ça. Voilà.
Je dis pas que c'est stratégique à ce moment-là.
Et alors du coup, il parle. Beaucoup, vous l'avez beaucoup interrogé sur l'Europe quand même. Et oui. Je me souviens que lorsqu'il avait fait son discours pour le prix Charlemagne à Strasbourg, c'était il y a 2 ans, il avait parlé de l'Europe comme d'une grand-mère. Alors il a beaucoup de respect pour les personnes âgées, ô combien, mais dans sa bouche, quand il parlait de l'Europe comme une grand-mère, c'était pas vraiment un compliment. Alors est-ce que vous avez reparlé de ça avec lui?
Ah oui, mais d'ailleurs,
quelle est sa vision de l'Europe?
Ah ben, alors, en gros, si mais avant, je vais juste une parenthèse, sur le pape, il y a des tonnes de livres. Mais moi, j'ai lu les discours, les grands discours qu'il a fait. J'en ai raté un parce qu'il l'a prononcé depuis, mais je voudrais le remettre à la prochaine édition. Et j'ai trouvé qu'il avait 16 grands discours dans le monde, à l'ONU, à l'OMS, à l'UNESCO, etc., qui sont très bien. Et du coup, je les ai coupés parce que parfois, et je les ai mis à la fin de chacun des chapitres. Et là, vraiment, je vous conseille de lire parce que c'est très clair, c'est très net, notamment contre la Curie et sur l'Europe au prix Charlemagne. Et ce qu'il reproche à l'Europe, c'est qu'en fait, elle est endormie. Il dit, c'est une grand-mère, il faut qu'elle retrouve sa vivacité. Et en gros, par exemple, notamment sur les questions d'immigration, sur la question de la démocratie, sur la question de l'accueil aux autres, sur la question de la dynamique. Donc, un, il aime l'Europe parce qu'il est européen, comme presque tous les latinos, finalement.
Surtout les Argentins.
Merci, vous allez plus vite que moi. Le temps que je reprenne mon souffle, vous allez plus vite que moi. Et d'une part, et d'autre part, il ne peut pas ne pas être critique sur nos problèmes de riches. Il dit, si vous avez des problèmes de comment on appelle ça? Je trouve pas les vocations de vocation. Débrouillez-vous. D'ailleurs, ça se voit très bien dans sa politique diplomatique. Il va là, dans les pays pauvres, traversés par des guerres, et jamais dans les grandes puissances. Donc, il m'a dit, oui, je viendrai en France. Bien sûr, je viendrai en France. Mais il me dit, c'est pas une urgence. Vous êtes assez grand, assez riche, quoi.
Il est venu à Strasbourg, quand même.
Oui, mais ça a fait un conflit. Parce qu'il est venu prononcer un discours au Conseil de l'Europe. Et on lui a dit, écoutez, on est en train de fêter les 1000 ans de la cathédrale de Strasbourg. Vous avez 200 mètres à faire. Il dit, non, je ne viens pas pour la France, je viens pour l'Europe. Alors, ça a chauffé. Quand il a été à Fatima, je discutais de ça avec le nonce. Le nonce me dit, comment on appelle ça Tout le monde dit, bon, puisqu'il est à Fatima, il va quand même faire un stop au Portugal. Il dit, non, je viens que pour Fatima. Donc, il dit, les pays riches, débrouillez-vous. Vous avez des crises de recrutement.
Ce qui est frappant d'ailleurs, c'est qu'il n'a même pas mis les pieds en Argentine.
Non. Alors, il dit « je ne suis pas sûr que j'y retournerai ».
C'est assez frappant. Alors tout le monde sait qu'il avait d'assez mauvaises relations avec Cristina Kirchner, mais qui a quitté le pouvoir depuis. Il n'aime pas beaucoup, je crois, le nouveau président Macri, enfin en tout cas la politique qu'il mène, qui est trop libérale à ses yeux. Mais enfin, j'imagine ce que serait le retour, comme celui de Jean-Paul II en Pologne, ce que serait le retour de François en Argentine, ça serait extraordinaire. Mais je ne suis pas sûr qu'on le verra, ça.
Non, je suis pas sûr. Et à ceci près que les Argentins sont des gens assez compliqués, c'est très compliqué, ils font tous une psychanalyse, c'est ça qui est drôle. Enfin, j'exagère, mais à peine, quoi.
Ouais, c'est le royaume de la psychanalyse.
Voilà, ils sont en 14e tranche, 18e tranche, etc. Et en même temps, les Argentins ont un complexe de désamour, et en même temps, ils n'aiment pas devenir trop sous la lumière. Donc le pape, il trouve que c'est compliqué. En plus, le pape a laissé lui-même... Par exemple, pendant que cardinal archevêque de Buenos Aires, il n'avait pas de voiture, il voulait circuler qu'en métro, il n'habitait pas non plus le palais épiscopal, qui est magnifique à Buenos Aires pour ceux qui le connaissent. Donc il a lui-même déjà choqué les Argentins pour une partie du... et puis il dit l'Argentine, ils peuvent se débrouiller tout seuls. Mais là, sa politique diplomatique n'est pas bien comprise. Parce que par exemple, Colombie, il y a un mois, et Bangladesh aujourd'hui, c'est quand même rare. Son deuxième voyage, ça a été pour la République centrafricaine. Et quand il a lancé l'année de la miséricorde, en général, les années saintes sont les années où c'est assez magnifique du pronostic. Le pape ouvre les portes des Saint-Pierre. Et là, il a dit, c'est pas la peine. Et la première cathédrale au monde qui a ouvert les portes pour l'année sainte de l'année de la miséricorde, c'était la cathédrale de Bangui. On ne peut pas dire que Bangui fasse partie des grandes puissances catholiques du monde. Donc il est tout le temps comme ça. Mais ça, les gens ne le comprennent pas, notamment. Parce que plusieurs fois, il m'a dit « Ah, Dominique, la France, fille aînée de l'Église. » Il m'a dit « Vous m'attendez, je vais venir. »
Mais... D'ailleurs, pour renforcer ce que vous dites, il était encore la semaine dernière en Birmanie et au Bangladesh, alors que le voyage que tout le monde attendait, c'était l'Inde, où il y a 30 millions de catholiques. Ouais. Donc, en fait, il a été dans ces deux pays-là. Alors bon, il y a le drame des Rohingyas qui le requiert, mais le voyage a été décidé avant. Et puis le Bangladesh, où il y a quand même quelques chrétiens, mais qui ne sont pas très très nombreux, mais qui par contre sont dans des situations très 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 dures. Pour le coup. Donc il est toujours là où ça, là, sur les fractures. Là, sur les...
Et là, sur l'histoire de la Colombie, c'était la même chose, c'était renforcer l'accord de paix. Il n'avait pas pu venir l'année d'avant où l'accord de paix avait été signé, sous l'égide de l'ONU, etc. Il revenait. Il a dit une autre chose aussi, n'oubliez pas de faire une réforme agraire. Parce que son obsession, c'est chaque être humain doit avoir trois T. Un travail, un toit et une terre. Donc ça a l'air simple, mais ce sont des messages universels. Universaux et qui du coup lui permettent parce que la terre, non, on se rend pas compte de la question, mais en Amérique latine et la Tifondia, c'est les inégalités sont gigantesques. Donc, mais c'est pas son engagement politique qui est premier, ce sont ses valeurs spirituelles, mais c'est vraiment l'application en acte de l'évangile. Je lui ai dit d'ailleurs, vous devriez le dire plus nettement parce que l'évangile est un texte qui est connu, y compris des personnes athées, mais.
J'ai remarqué très souvent pendant ce livre, vous lui posez des questions en lui disant « Mais pourquoi l'Église ne dit pas ça ?» Alors il dit « Mais si, on le dit, alors c'est sur tous les sujets. Mais si, mais vous devriez le dire plus souvent, mieux, comme... Vous l'avez beaucoup poussé sur, à tenir des discours forts alors sur différents sujets, la laïcité, les injustices, pourtant François, pourtant il dit beaucoup de choses, il n'a jamais peur.
Non, alors, il dit rien ne m'effraie.
Rien ne m'effraie, oui.
Mais
Alors qu'est-ce qui pêche selon vous dans sa communication là?
Mais c'est pas lui, c'est que l'Église. Le paradoxe, c'est qu'il y a toujours. L'Église est coincée entre le langage de vérité et la langue de bois. Et elle fait 80% de langue de bois et 20% de vérité. Or, dans sa vérité, elle a quand même une expérience. Je prends des domaines sur lesquels elle a des choses à dire. Quand même, c'est justement la conception de la communication qui est quand même extrêmement forte. La conception, le respect de l'autre, vous comprenez? L'Église, elle a massacré des peuples entiers, mais elle a gardé les dictionnaires de toutes les langues qu'elle avait massacrées. Et à Vatican II, 61-62, elle est la première institution mondiale qui dit « Oui, à partir de maintenant, on prie et on chante dans toutes les langues du monde, dans toutes les langues vernaculaires. » Donc c'est le premier acteur international qui a accepté la diversité linguistique. Quelque chose qu'ils ne mettent absolument pas en avant et qui, pour moi, est un acte complètement révolutionnaire. Et c'est là où j'ai ce truc le plus drôle avec lui. Je dis « Mais enfin, si je prends la diversité linguistique comme étant de vos patrimoines, vous ne dites rien. » Il me répond, mais il n'y a rien à dire. Tout est réglé depuis la Pentecôte.
Et la Pentecôte, c'est vrai.
Et la Pentecôte, pour ceux qui ont oublié leur tradition catholique, c'est les langues de feu du Saint-Esprit qui descendent sur les apôtres. Et donc, on est en plus 15.
Et ils se mirent à parler dans leur propre langue.
Voilà.
Eh oui.
Et du coup, je dis, d'accord, c'est bien mignon, Saint-Père, mais il y a 2000 ans de ça, quand même. Ben, dis-vous, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de plus? Je trouve ça, moi, ça me fascine. Voilà. Je trouve que c'est une certaine dimension esthétique.
Vous avez quand même eu besoin d'un traducteur, un petit peu.
Oui, bah oui, parce que mon italien n'est pas terrible. Mais à partir du moment où j'ai compris qu'il comprenait bien le français, je parlais lentement en français, il me répondait en français et en italien. Et du coup, comment dirais-je, quand je ne comprenais pas, je demandais à l'italien, mais il y avait une espèce de communication, objectivement, qui n'était pas orthodoxe. Ça, c'est sûr.
Vous aviez en face de vous, Dominique Volton, un chef d'État.
Plus qu'un chef d'État, une autorité spirituelle d'abord.
Alors oui, alors justement, donc chef d'État, donc d'un État qui s'appelle le Vatican, enfin le Saint-Siège. Vous n'avez pas eu la tentation de temps en temps de le prendre uniquement pour cela, c'est-à-dire d'en oublier que l'Église catholique c'est certes un État et un pouvoir politique, et c'est intéressant de ce point de vue, mais c'est aussi ça dépasse cela. Et, comment situer le dialogue justement quand on est entre les
alors,
deux.
Moi, je suis laïque. Agnostique, etc. Mais évidemment, je ne suis pas à ce point-là naïf. La lecture, de l'Église, il y a deux lectures. Une lecture croyante qui dit, bon, il y a le Saint-Esprit en plus, et puis une lecture profane qui dit, mais écoutez, c'est une institution comme une autre, avec des mécanismes de pouvoir, il n'y a rien de particulier à en dire. Si l'Église n'était que ça, il y aurait bien longtemps que, comme institution, elle aurait disparu. Donc il y a un mystère quand même de l'Église, qui est, c'est une institution comme les autres, avec des hommes pourris exactement comme les autres, et pas meilleurs, Et en même temps, sa capacité à se renouveler, à repartir, pose une question, même si vous êtes athée. Donc moi, c'est cette question qui m'intéresse, cette dimension autre de l'Église. Je connais bien les institutions, j'ai quand même pas mal d'expérience, mais si vous voulez, quand vous êtes au Vatican, c'est tout petit, tout petit, petit, petit.
44 hectares.
Oui, mais il n'y a pas grand monde en plus là-dedans, en permanence. Il y a une intelligence, une compréhension du monde sur 15-20 siècles qui est exceptionnelle. À côté de ça, le nombre de gens que vous avez à New York, etc., ou même dans la diplomatie européenne qui est très intelligente, c'est infiniment plus grand. Donc il y a une capacité à comprendre le monde, à l'ausculter et à agir, et surtout à agir, parce que quand même, les églises disent finalement pas grand-chose sur elles, mais elles agissent en permanence. Donc c'est ce mélange entre spiritualité, action, langue de bois, tradition, modernité, par exemple sur les rapports entre tradition et modernité, je l'ai beaucoup titillé parce que l'Église n'est pas bonne. Elle a un patrimoine extraordinaire de ce conflit, très intéressant aujourd'hui où la modernité a triomphé, qui permettrait de rediscuter d'un certain nombre de choses. Autrement dit, elle a énormément de choses en patrimoine qu'elle ne sait pas valoriser parce que ces hommes sont dans une espèce de logique où ils disent...
Une logique cléricale, plus
souvent. Oui, pas... Enfin, c'est la seule institution qui soit peu... Je vais le dire autrement. C'est une institution qui, finalement, face à la mondialisation, a le moins de surprises, puisqu'elle-même est à vocation mondialisée. Donc, si on prend l'ONU à côté, c'est plus compliqué. Etc. Ah là, non, depuis le début, c'est tout le monde. Donc, contre le racisme, contre l'ONU. Et en même temps, les conférenciers... En plus, l'Église catholique a fait un terrible processus de décentralisation de ses mécanismes de décision. C'est maintenant les conférences épiscopales qui gèrent la plupart des choses. Donc, si vous voulez, ils ont un mal fou même à se comprendre. Parce qu'en définitive, ils n'ont pas les mêmes langues, ils n'ont pas les mêmes cultures. Et les épiscopats, là, il y a une décentralisation. Par exemple, le dernier Sacré Collège, il a nommé 14 cardinaux, il n'y a aucun cardinal européen. Donc ce sont des paris extraordinaires. Et les jeunes églises sont parfois beaucoup plus réactionnaires que le clergé européen. Donc il y a des paris sans fin. Le clergé d'Asie et le clergé d'Afrique, il n'est pas particulièrement progressiste. Il est sur les positions les plus traditionnelles. Et par exemple, sur la famille, parce qu'il voulait faire évoluer le fait que des hommes et des femmes divorcés puissent de nouveau communier, divorcés et mariés, il a fallu deux synodes sur la famille, donc c'est les convocations d'évoque au niveau mondial, pour finalement arriver à faire passer. Sur le fait que l'union civile est possible pour les homosexuels, ce qui est sa position, il ne dit pas de mariage, mais oui, union civile.
Ça coince. Ça coince.
Ça tangue.
Alors, vous l'avez dit vous-même, donc là, vous n'avez pas parlé de qu'est-ce que c'est qu'être moderne. Il vous a fait une réponse, il vous a dit, un chrétien moderne, c'est un chrétien ouvert. Hein, c'est ça.
Oui, parce que quand je lui dis, c'est quoi le pire des péchés, il m'a dit, tout ce qui est en dessous de la... Ça, c'est merveilleux. Tout ce qui est en dessous de la ceinture, c'est vraiment pas grave.
Ouais.
Et quand un curé vous pose trop de questions sur ce qui se passe en dessous de la ceinture, il faut envoyer le curé voir un psy. Par contre,
un psy argentin d'ailleurs.
Oui, un psy argentin. Par contre, le pire, et ça je trouve ça très joli, le pire des c'est l'angélicalité et l'hypocrisie. Et
c'est très beau ce mot angélique. C'est la première fois que je l'entends. Angélicalité.
Moi aussi, j'ai entendu.
Il y a l'angélisme. C'est pas l'angélisme.
Oui, non. Cette capacité à faire l'ange et en fait est un hypocrite et une personnalité rigide. Ça, c'est bien pire. Et de ce point de vue-là, quand vous lisez dans le chapitre 7 les deux textes que j'ai rajoutés sur ce qu'il a dit à la Curie. En décembre 2014 et en décembre 2016, lisez. Ça s'applique à la Curie, ça s'applique à tous les...
Je me souviens qu'il avait critiqué la mondanité.
Ah, mais...
La mondanité.
J'en ai assez.
Pour lui, le grand péché, c'est la mondanité. Alors, qu'est-ce qui met derrière la mondanité?
La mondanité, c'est le fait de plaire, de jouer aux évêques, aux archevêques, aux cardinaux, d'être avec les dirigeants, de penser que...
Oui, c'est ce que Jésus reproche aux pharisiens.
Bien sûr, c'est la même chose.
C'est ça.
Mais je vous dis, pour moi, le résumé le plus simple, c'est l'évangile en acte. Mais comme on oublie que les papes ne sont pas vécus comme ça. Benoît, il est essentiellement vécu du point de vue de la théologie. Et Jean-Paul, finalement, ça a été le combat pour la chute définitive du communisme qui a... Puis c'était des Européens encore. Là, on est quand même. Si l'altérité est faible parce que c'est un Argentin, donc un quasi-européen, c'est tout de même un Latino. Par contre, il est marqué par la tragédie de l'histoire parce que j'ai laissé deux fois, il en a parlé deux fois de manière un peu différente. Je lui dis, c'est quoi le plus beau souvenir de votre vie? Parce que dès lors que le dialogue était très bon sur le plan politique et sociétal, j'ai élargi. Mais en même temps, j'étais pas un flic ni un journaliste censé. Bon, bref. Je lui dis, c'est quoi votre plus beau souvenir? Et deux fois de suite, il me l'a dit. donc de manière radicale. Et c'est quand ma tante est venue, il vivait dans une sorte de coron à Buenos Aires. Sa tante est venue, il a dit, appelle ta mère, il a appelé sa mère, elle a dit, la guerre est finie. Donc 45, c'est la naissance de sa conscience politique. Donc c'est un homme obsédé par la paix et la guerre. Voilà.
La guerre qui, évidemment, de Buenos Aires était loin quand même.
Oui, était loin, sauf que l'Argentine était très impliquée dans le commerce, c'est ce qui a fait la richesse de l'Argentine, c'était l'arrière-cour des États-Unis, et du coup la guerre, mais en même temps, elle était engagée. Mais oui, il était obsédé par la paix et la guerre. Et obsédé par une autre idée très jésuite, qui est on ne rompt jamais, on construit des ponts, on fait tomber les murs. Des ponts, des ponts, des ponts. Jamais de murs. Et là, du coup, c'est pour ça, pour lui, l'importance du toucher, c'est-à-dire tendre la main. Si on ne peut pas se parler, au moins on se touche.
En fait, vous avez eu l'impression avec lui de prendre un grand bain d'évangile, finalement, non ?
Ah oui.
Une sorte de grand retour à, finalement, à l'évangile, tout simplement. Ah oui. Tout simplement.
Oui, parce qu'il fait oublier très vite l'or, les institutions. D'ailleurs, on le voit dans les cérémonies officielles. C'est pour ça que la caméra, c'est extraordinaire. Il est là tout en n'étant pas là. Tout le monde dit, bien sûr qu'il est parfaitement en situation liturgique. Mais en même temps, il y a une espèce de distance qui, d'ailleurs, il a des ennemis. Hein. Il a des ennemis.
Ah bah, le Vatican, oui, beaucoup. Oui.
De toute façon, on considère qu'il n'est pas assez formel. Alors, on ne peut pas le taxer de théologie de la libération parce qu'il est prêtre et pas marxiste. Mais si vous voulez,
il connaît très bien la théologie de la libération et en même temps, bon, évidemment, il a pris ses distances beaucoup.
Hein. Ah, mais il n'a jamais.
Il n'est pas brésilien parce que c'était plus fort au Brésil.
Oui, mais surtout, lui, il a essayé de faire un concept. Bon, il a appelé ça la théologie du peuple pour essayer de trouver. Parce que la question centrale pour un prêtre qui est révolté par la réalité politique, c'est jusqu'où est-ce qu'il a un message spirituel et à partir de quand il bascule dans un discours politique. Et la théologie de la libération, c'est exactement ça, c'est-à-dire. Quand est-ce que le spirituel prédomine sur le politique quand on voit les injustices du monde? Et c'est vrai que ça a embarqué tout avec le Pérou et le Brésil, mais que lui, du coup, il a essayé de trouver un moyen, et il est toujours... C'est un peu le chemin de crête, c'est-à-dire, en gros, l'Église doit donner l'exemple du côté de la pauvreté, voilà.
Voilà, on dit beaucoup de lui, et vous le lui avez rappelé, vous êtes le François, vous êtes le pape des pauvres, le pape des migrants, vous êtes le pape des déshérités, etc. Il dit, j'aime pas ces expressions, il dit, j'aime pas qu'on dise ça. Non. Alors, c'est vrai que ça pourrait lui faire plaisir, mais non, ça lui fait pas plaisir. Pourquoi ? Parce qu'il dit, je suis le pape de tous. C'est, pas, voilà. C'est beaucoup trop réducteur, et c'est peut-être une façon de me politiser ce que je ne suis pas. C'est ça, c'est
voilà,
ça l'explication.
Exactement. Il est pas fondamental, il est politique, mais c'est pas la clé d'écriture la plus importante. La clé d'écriture la plus importante, c'est une révolte, c'est un spirituel et une révolte au titre de. Mais si je lui posais la question à un moment donné, j'ai écouté depuis Rerum Novarum, donc au milieu de deuxième tiers du 19e, l'Église a condamné de manière systématique et de manière très claire le capitalisme. C'est extraordinaire. Et ce message de condamnation du capitalisme n'est jamais entendu, jamais. Et par contre, l'Église n'arrête pas de condamner dans les mœurs. Ça n'arrête pas d'être entendu. Et vous-même, vous dites que les mœurs, c'est moins important.
Mais la critique du capitalisme par Jean-Paul II, par exemple, était très, très, très forte, hein,
très violente. Hein. Et Benoît a repris ça. Il y a une continuité très forte de la condamnation de l'argent roi, de l'argent fou, du dieu Mammon, comme on dit dans la Bible. Et ça n'est pas entendu. C'est quand même gênant qu'on ne vous entende pas sur la condamnation.
Alors vous, le communicant, vous avez expliqué à François pourquoi ça ne marchait pas, pourquoi la communication ne passait pas à ce niveau-là?
Mais non, mais c'est parce que c'est sa réponse sur le fait que l'Église s'est beaucoup trop occupée de ce qui se passait
sous la soutane.
Non, parce que ça revient au même. Ouais. Mais il n'est pas dogmatique. Il est dogmatique.
Enfin, c'est aussi parce que la société, une certaine société, a enfermé l'Église dans ces questionnements-là.
Bien sûr, mais elle ne s'est pas révoltée sur le fait que l'on n'entendait pas sa condamnation du capitalisme et qu'elle s'est satisfaite d'être quand même très identifiée aux mœurs. Il y a quand même des...
Donc finalement, ce que vous avez dit à François, c'est vous, les catholiques, vous avez un gros potentiel, ouais. Mais vous ne l'utilisez pas, quoi.
Moi, c'est une hypothèse anthropologique que j'ai. Dans ce bazar de la mondialisation, l'Occident, qu'on soit athée ou agnostique, je ne parle même pas du fait d'être croyant, mais c'est vrai que ce patrimoine que représente le christianisme, et à l'intérieur du christianisme, le catholicisme, c'est 1,3 milliard, les catholiques, et 1,5 milliard, les... musulmans, et 2,3 milliards la totalité des chrétiens dans le monde. Et après, c'est 900 millions, etc. Et donc, je pense que
Donc ça fait une masse, une masse quand même.
Et ça fait des peuples, et ça fait des histoires. Et donc je pense que dans ce dialogue de la paix à construire, du respect de l'autre et compagnie, qui est la grande question du XXIe siècle, comment se tolérer même si on ne se comprend pas, l'expertise, l'expérience de l'Église, même si elle a massacré des dizaines de peuples, est quelque chose à entendre, parce qu'elle a tout fait. Voilà. Elle a fait du pire au meilleur. Et du coup, je pense que d'un point de vue laïque, ça rejoint l'autre débat que j'ai eu avec lui sur la laïcité. Lui, il dit, mais c'est très intéressant comme position par rapport à la France, il dit, écoutez, vous, les Français, OK, vous avez tout à fait raison de votre combat pour la laïcité, mais je ne partage pas votre position d'une laïcité trop radicale. Moi, je suis pour une laïcité, comment il l'appelle exactement ? Le nom va me revenir. Et la différence entre lui et nous, il dit quoi ? Il dit, moi, je ne pense pas qu'on puisse exclure de l'espace public les phénomènes culturels, parce que dans la définition de la laïcité française, la culture et la religion, c'est dans l'espace privé.
Mais ça, c'est ce que disent les évêques français, hein ?
Exactement. Et lui, il dit, moi, je pense que on ne peut pas mettre la culture et la religion hors de l'espace public. Il faut la mettre dans l'espace public, en discuter et laisser toutes les théories s'exposer. Par exemple, les femmes voilées, elles peuvent venir voilées, on discutera, mais on ne peut pas leur interdire. Par exemple, si on prend la loi de 2004 en France. Et si vous voulez, ça, c'est une position qui est...
Donc la laïcité française, pour lui, c'est le laïcisme.
Voilà, c'est trop étroit.
C'est assez sectaire, finalement. C'est
oui, voilà. On élimine trop la dimension religieuse, on ne peut pas l'éliminer. Qu'on en débatte contradictoirement, qu'on ne soit pas d'accord, qu'il y ait des conflits entre les musulmans, les bouddhistes, les chrétiens, pourquoi pas. Mais on ne peut pas faire comme si la question culturelle et religieuse soit uniquement mise...
Mais alors vous, Dominique Volton, vous étiez vraiment l'incarnation même de cette laïcité à la française, vous qui êtes déjà qui n'êtes pas catholique, qui êtes bien républicain.
Si, je suis catholique du culture, bien sûr.
Oui, mais vous êtes un républicain. Donc
républicain, je suis laïque agnostique.
Laïque agnostique. Bon, enfin, vous incarnez bien cette laïcité à la française.
Oui, mais enfin, je suis pas non.
Alors, est-ce que vous avez essayé de la défendre ou pas ?
Ben, écoutez, moi, je suis un personnage un peu compliqué, parce que si j'ai quand même finalement consacré dans une vie qui est courte autant d'années. Un juif cardinal et deuxième à un pape, c'est qu'il faut quand même que je reconnaisse que les questions religieuses m'intéressent. Sinon, c'est vraiment...
Sinon, ça serait du masochisme.
Quand même. Ouais. Donc, je n'adhère... Pour une part, j'adhère à la position laïque française. Pour une autre part, je la pense trop étroite. Et je prends un exemple. Quand on a fait la loi de 2004, qui a été justement l'interdiction de tous les...
Les signes religieux. Là,
moi, je voyage beaucoup dans le monde et à chaque fois, la réaction était la même. Quoi, les Français, vous êtes des gens très tolérants, très ouverts. Et pourquoi est-ce que votre laïcité devient aujourd'hui une laïcité de combat ? Et donc, il y a quelque chose à faire pour à la fois conserver cette laïcité qui est un bien universel, ça c'est clair.
Et plus près de nous, il y a eu l'affaire du Burkini, par exemple, l'année il y a deux ans, qui était une sorte de queue de comète de la loi de 2004.
Et comment intégrer, surtout dans ce 21e siècle qui redevient très fort avec la religion, comment admettre la place du débat religieux dans l'espace public, sans que l'on arrive naturellement à un retour de la collusion religion-politique. Voilà. Et ça, c'est une question... une saine, voilà. Il lui dit, je suis pour une saine laïcité. Voilà la phrase.
Pour le, pardon.
Je suis pour une saine laïcité, c'est la laïcité, mais on admet de débattre dans l'espace public des questions religieuses.
Oui. Parce que cette laïcité à la française, évidemment, elle est très particulière. Lui qui est en Italie et qui vient d'Argentine, c'est une façon d'aborder la...
Oui, elle est d'autant plus particulière qu'on est très radical là-dessus, à juste titre, et qu'en même temps, on a une laïcité qui est, ce que nous reproche les autres religions, elle est quand même très catholique, notre laïcité, quand même. Alors maintenant, l'islam, qui est la deuxième religion de France, dit à juste titre que c'est une laïcité à deux vitesses, ce qui n'est pas faux. Et de toute façon, je ne pense pas qu'on puisse totalement laïque. Ou alors, si on l'est, on l'est. Les racines anthropologiques et religieuses font partie de l'histoire, voilà. Et du coup, la question dans la mondialisation, c'est comment va-t-on être capable de faire cohabiter ces fondements civilisationnels qui sont différents, mais qui, on le remarque sur les trois religions du livre, reposent toutes sur l'amour, le respect d'autrui, etc., même si ça a été trahi 20 fois. Donc, en tout cas, la seule religion qui a une expérience réellement catholique, au sens universel, c'est l'Église catholique. Donc, elle m'intéresse anthropologiquement, historiquement. Ce dont elle est porteuse, de la haine de l'autre et de l'amour de l'autre, c'est quand même, étant donné qu'elle est sur tous les continents, qu'elle a traversé tous les régimes, c'est quand même quelque chose à interroger pour savoir jusqu'où est-ce qu'on pourra organiser une forme de cohabitation laïque dans le monde.
Bon, parce qu'on va être, on sera bientôt 8 milliards d'habitants sur la Terre, de toutes sortes, de tout peuple, toute langue et toute culture et toute religion. Là, il y a un enjeu énorme, hein, vous venez de le dire. Et donc, si vous aviez un conseil à donner à ce pape et à son successeur, parce qu'il n'est pas éternel, ça serait quoi ?
Non, la Curie attend vivement que...
Quelle feuille de route est-ce que vous lui fixez pour jouer vraiment le rôle que vous attendez d'elle ? C'est-à-dire, parce que finalement, vous attendez que l'Église catholique joue un rôle peut-être plus important qu'elle ne le joue. Voilà, en exploitant ses atouts, voilà. Mais qu'est-ce que vous lui conseillez de faire ? Voilà.
L'Église est très engourdie. Hein.
Très engourdie.
Est-ce que me disent les jeunes évêques ou les jeunes prêtres que je vois, parce que je ne vais pas beaucoup dans l'univers religieux, ceux qui sont vraiment qui bougent, putain, pourvu qu'ils nous promeuvent, nous les jeunes. Quand les jeunes à l'Église.
Et là, vous parlez de la situation française ?
Oui,
ou
non, mondiale. C'est-à-dire que il fait incontestablement, il secoue les choses, il les simplifie, il ramène du côté de la pastorale. Il ramène du côté d'action, il ramène du côté de la pauvreté, il ramène du côté des discours politiques fondamentaux pour la réduction des inégalités sur la question de la paix. Par exemple, il mène une bataille qui est quand même, dans la dogmatique religieuse catholique, il y a des guerres saintes. Et lui, sa position, il l'a très bien expliqué dans le bouquin, il n'y a pas de guerre sainte. Il n'y a jamais de guerre sainte. Il n'y aura plus jamais de guerre sainte. Seule la paix est sainte. Et si vous voulez, c'est un renversement... dogmatique, oh oui, dogmatique extraordinaire.
Donc une guerre dite religieuse, c'est simplement la religion est instrumentalisée.
D'ailleurs, il le dit très nettement, il dit toutes les guerres religieuses, c'est des mécanismes d'instrumentalisation de la religion.
Oui.
Il est très net. C'est pour ça qu'il est très pour la séparation du religieux du politique, il est très laïque. Mais simplement, la différence qu'il y a avec notre laïcité, c'est qu'il dit le fait culturel et le fait religieux est trop important pour être relégué uniquement, ça ne tiendra pas, relégué uniquement dans la sphère privée. Et là où historiquement il n'a pas tort, c'est que notre laïcité très radicale est quand même très chrétienne. Et là, ce que nous reprochent les musulmans, d'ailleurs.
Oui, oui. Et alors, sur l'évangélisation, parce qu'il dit
finalement, il
distingue vraiment très fort, il dit qu'au fond, le message de l'Église, ce que doit faire l'Église, c'est pas tant évangéliser que témoigner par l'action, finalement, dire qui elle est et faire. Et puis, finalement, le reste suivra, finalement. Donc, voilà. Évangélisation au sens de prosélytisme, ça, il n'aime pas. Évangélisation, si ça veut dire être soi-même...
veut dire annoncer la bonne parole et agir, OK.
Voilà.
Transformer un petit catholique, etc. Non. Là-dessus, il est assez.
Oui, ça, on peut être d'accord avec lui. Oui, je pense que oui. Ce qui veut pas dire que le mot évangélisation est pas un beau mot, puisque c'est le mot.
Non.
Ça vient de l'évangile.
Oui, mais en fait, c'est là où c'est ce que je disais tout à l'heure. Il a un espace-temps qui me fascine. Il résonne sur 1500 ans. En gros, il peut y avoir deux siècles de une espèce de confiance. Historique est invraisemblable pour nous. Nous, on raisonne sur 40 ans, les plus cultivés d'entre nous, sur 4 siècles. Il m'a sorti des noms de saints français du 3e siècle. J'ai foutu une note en bas de page. Hein,
parce il vous a parlé des pères de l'Église aussi. Hein.
Bien sûr.
Il vous a parlé du concile de Chalcédoine, il vous a parlé de saint Eusèbe, il vous a parlé de...
Ah oui, tout ça, c'est naturel, c'est dans sa tête.
Ouais.
Je ris parce que quand on voit l'absence de culture qu'il y a aujourd'hui... Puis moi, j'adore ça d'un point de vue esthétique. Parce que si vous voulez, ça a quand même de la gueule des références sur 1500 ans, je trouve quand même.
Et puis il connaît assez bien la France. Il parle du curé d'Ars, ça tous les prêtres en parlent, mais il parle aussi de saints moins connus. Il parle de personnalités.
Ah bah, il m'a sorti 3-4 du 3e, 4e siècle.
Ouais.
Il a lu Bernanos, il a lu Peggy.
Il vous a parlé plusieurs fois de Peggy.
Oui, oui, ça l'a marqué. Peggy, il aime bien.
Peggy le convertit. Hein.
Oui, bien sûr. Mais je lui dis, vous savez, Peggy, il a mauvaise réputation en France. Parce qu'on considère qu'il est réactionnaire. Ah bon, et alors ?
Ouais.
Voilà. Il a une forme de liberté d'esprit qui est rare.
Bon, alors, vous l'avez invité en France ?
Pas du tout, j'ai aucun pouvoir. Et il m'a bien fait comprendre que... Bah là, on va avoir un échange. Macron a accepté, vous savez, qu'il est de tradition que le président de la République soit le chanoine du Latran à Rome. Et comment il s'appelle ? Hollande n'avait pas voulu y aller. Et en fait.
Macron,
quand je l'ai vu, j'ai discuté ça avec lui. Il m'a dit oui, je voudrais. En fait, je crois qu'il a envie d'y aller. Mais il se trompe en pensant que ça lui ramènera du vote catholique. Et il se trompe en pensant que ça va obliger. Il a une tête dure, hein, le François.
Oui.
S'il veut venir, il viendra. Mais. Je crois qu'il a vraiment comme position, écoutez les riches, débrouillez-vous entre vous.
Non, mais ce qu'il pourrait faire, parce qu'avait fait son prédécesseur, c'était de venir à Lourdes, par exemple, où il y avait des blessés de la vie, des malades. Lourdes, c'est un lieu mondial.
Oui, mais il serait bien capable de venir à l'autre, de repartir.
Et de repartir, oui, tout à fait. Mais tout à fait, oui, bien sûr. Ce que Benoît n'a pas fait, qui était, Benoît était passé à Paris.
Voilà. Oui, voilà. Ouais. Mais non, c'est difficile à interpréter un homme, surtout quand vous le connaissez, qu'il a 80 ans. C'est difficile à comprendre. Mais je pense qu'il est une espèce de... Pour reprendre... Il parle de saine laïcité, moi, je dirais une saine colère. C'est, je pense que cet homme s'est radicalisé en vieillissant. Okay, ouais. Ouais, ce qui est rare.
Et dernière chose, que, je vais vous laisser la parole. C'est un pape qui a...
Mais parce qu'il se débrouille très bien. Dans ses, félicitations.
Il a de l'humour.
Obligé à séquencer.
Il a de l'humour, hein, François, je crois.
Je crois que c'est là-dessus qu'on s'est retrouvé.
Vous avez dit que les conversations avaient été assez légères, assez gaies. Finalement, il ne s'était pas du tout empesé. Vous avez blagué pas mal.
Tout le temps. Mais j'ai réussi à le traduire un peu de temps en temps, marquant rire. Parce que rire dans le texte. Mais il a un humour. Mais j'adore. C'est invraisemblable. Et puis, on se trouvait là-dessus. Mais c'est une histoire de... C'est pas les mêmes expériences, c'est pas les mêmes âges, c'est pas les mêmes... Rien n'est... Et... Non, j'ai... Oui, parce que je pense que c'est derrière l'humour. D'abord, c'est un raccourci d'intelligence, l'humour, et ensuite de ça, une forme de mise à distance. Mais vraiment, il n'aime pas la puissance. Voilà.
Mais il y a de la gaieté chez lui.
Oui. Ce que je lui dis, vous êtes finalement un latino, vous êtes moins...
Parce qu'il a quand même beaucoup de responsabilités. C'est assez écrasant, quand même. Hein, c'est écrasant. Et puis, il était là pendant une heure et demie avec vous, sans finalement, sans avoir l'air de penser à ce qu'il allait faire après ou ce qu'il venait de faire avant.
Je trouve ça invraisemblable, parce qu'il était complètement étanche. Non, deux, trois fois, il m'a dit, je dis, vous avez l'air vraiment fatigué ou je ne sais pas quoi. Donc, c'est dit, reconnaissez, mais si vous voulez, il était extrêmement disponible, oui.
Ouais.
Moi, c'est moi qui, la plupart du temps, arrêté les réunions au bout d'une heure, trois quarts, parce que c'est très fatigant de faire un dialogue comme ça.
J'espère que vous n'avez pas prétexté des rendez-vous pour le quitter.
Non, quand même pas.
Quand même pas.
Non, mais un jour, j'étais en retard parce que les portes du Vatican étaient fermées pour des raisons de je ne sais pas quoi. Et je suis arrivé, il était déjà là, ce qui est un petit peu embêtant.
Ah oui.
Et il m'a dit, ah, c'est français. C'est
toujours
français.
En retard. Toujours en retard, c'est français.
Et j'ai trouvé ça... Mais c'est l'humour, quoi.
Merci beaucoup. Et puis donc, je vous laisse donc avec vos lecteurs au fond de la salle, en vous remerciant beaucoup d'être venus. Et à vous tous.